le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70. Nathalie Amar.
Sortir 20 millions de Congolais de la pauvreté d'ici 5 ans, d'ici la fin de son quinquennat. Donc voilà la promesse, l'objectif de Félix Tshisekedi, le président congolais, a lancé mercredi dernier à Kimwanza, au sud de Kinshasa, un programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Et le chantier est colossal. 20 millions de personnes, c'est environ un quart de la population. Le président le reconnaît lui-même. La pauvreté est un phénomène de masse en RDC. Paradoxe, évidemment, pour un pays immensément riche en minerais, notamment. Moins d'un Congolais sur 10 a accès aujourd'hui à l'électricité, 1 sur 4 à l'eau potable, avec évidemment de grosses disparités entre les villes et les campagnes, disparités entre les régions aussi. Alors, que prévoit ce plan? Eh bien, essentiellement, d'améliorer l'accès aux services de base, justement, l'électricité, érigée l'été dernier au rang de priorité économique du quinquennat. La question, c'est de savoir comment ce plan, pour l'instant, n'a pas de budget spécifique, puisque le budget du gouvernement lui-même est en cours d'élaboration. Alors, dans ce discours, le président a promis aussi une lutte acharnée contre la corruption, le détournement des deniers publics, et c'est d'actualité, hein, ce lundi, avec cette marche prévue à Kinshasa à l'initiative du comité laïque de coordination. Alors, que vous inspire ce plan? Comment combattre efficacement la pauvreté en RDC? Beaucoup de réactions déjà sur Twitter. Par exemple, Béranger nous écrit « La campagne électorale est déjà finie, il n'est plus temps de faire des promesses, on veut des réalisations. » Marius sur Facebook, je vais me muer en Saint Thomas, je ne peux pas croire sans avoir vu. Samuel à Bukavu nous dit, lui, qu'il est optimiste, que la promesse peut être réaliste à condition, je cite, que le président mette fin à la kleptocratie qui a caractérisé le régime de son prédécesseur. Vous continuez évidemment à réagir jusqu'à 9h, temps universel. On accueille tout de suite en direct Abel. Bonjour Abel.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Kinshasa et vous dites, Abel, que Félix Tshisekedi a tous les atouts pour réussir, qu'il faut simplement lui laisser le temps de travailler. Alors expliquez-nous quels atouts exactement.
Ben, cela est vrai. Félix Tshisekedi, de par sa nature, c'est quelqu'un qui connaît le Congo profond parce que c'est un Congolais qui connaît son environnement, son pays, l'histoire de son pays, et qui a lutté pendant toutes ces années auprès de son père, qui n'a pas, de son vivant, cédé la place à la corruption. Et si le Congo aujourd'hui est ce qu'il est, c'est parce que la corruption, les détournements des deniers publics avaient élu domicile dans le chef de ceux qui avaient le portefeuille de l'État. Et le président Félix Tshisekedi, pour avoir promis qu'il allait lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics, moi j'aurais souhaité qu'il fasse marche arrière, qu'il ne laisse pas impunis tous ceux qui ont pu s'enrichir sur le dos des Congolais. Mmh. Alors, de ce fait, s'il promet aujourd'hui un état de droit, un état sans corruption, sans détournement, mais moi j'aurais souhaité qu'il fasse marche arrière et qu'il mette sur le banc des accusés tous ceux qui avaient pu faire fortune sur les fonds publics.
Mmh. Donc vous faites confiance au président à condition qu'il s'attaque de front, j'allais dire, à ce chantier de la lutte contre la corruption, c'est ça?
Pardon?
Vous faites confiance au président Tshisekedi à condition qu'il s'attaque à ce chantier de la lutte contre la corruption, c'est ce que vous nous dites ce matin?
Oui, et la corruption est, je dirais, la sœur jumelle des détournements des deniers publics. Parce que ce sont ceux qui détournent, qui corrompent. Mmh. La corruption, à moindre échelle, n'a pas d'importance. Mais lorsque quelqu'un détourne des millions et des millions et qui corrompt avec un million, ben, ça demeure. Mais il a beaucoup d'atouts. Il a déclaré la scolarité gratuite pour le primaire, ce qui est déjà bien parce que, à la longue,
oui, mais ce qui n'est pas réalisé partout, hein, si on entend bien les différents reportages qu'on a diffusés sur notre antenne. Abel, on va écouter Eric qui dit finalement un petit peu la même chose que vous, en tout cas à propos de ce chantier prioritaire de la lutte contre la corruption, si on veut s'attaquer aux maux du pays. Bonjour Eric.
Bonjour, madame Nathalie.
Vous êtes également en ligne de Kinshasa, donc lutte contre la corruption là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord. Vous parlez, Eric, de promesses irréalistes. Pour quelles raisons ?
Écoutez, madame, je crois que avant de commencer, je vais d'abord présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu les leurs, parce que vous savez qu'il y a eu un accident.
Absolument.
De circulation. Voilà. Et je vais présenter d'abord mes condoléances le plus attristées au président de la République, mais également aux familles qui ont perdu les leurs et au peuple congolais. Voilà. Je suivis l'allocution du président de la République la fois dernière et je pense que le président de la République doit savoir faire la différence entre la période électorale et la période où on est président de la République. Je crois que ça fait pratiquement 244 jours qu'il est au pouvoir et aujourd'hui nous restons toujours dans la phase théorique de son mandat, ou caractérisé que de promesses. Revenons un peu en arrière. On nous a présenté un programme de 100 premiers jours du président de la République. Et jusqu'à ce jour, je vous signale qu'il n'y a rien qui est fait sur place. Aucune étude. Ceci prouve que le président de la République est en train de tâtonner. Nous voulons qu'il lutte d'abord. Moi, je ne veux pas lui demander de trop.
Mais par où, Eric, par où faudrait-il qu'il commence? Parce qu'on l'a dit, c'est un chantier colossal. Qu'est-ce que vous attendriez de lui aujourd'hui pour lancer ce chantier de la lutte contre la pauvreté?
Exactement, c'est de là où je venais déjà. J'ai dit, je ne lui demande pas de trop. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce jour? C'est d'être beaucoup plus concret. En luttant d'abord contre la corruption. Ce qu'hier, on a appelé la corruption, aujourd'hui a pris une autre forme. Une autre facette, c'est la rétrocommission, ce que nous appelons aujourd'hui la rétrocommission. C'est de la corruption pure et simple. Et cela doit être combattu avec beaucoup plus d'énergie.
Alors une fois qu'on a récupéré, disons, les fonds libérés par cette lutte contre la corruption, comment on fait? Par quel bout on prend le problème? Par où on commence?
Non, mais écoutez, je pense que pour lutter contre la corruption, vous savez, quel est le message? C'est la sensibilisation. Il faut commencer par la sensibilisation. D'abord par ce qui est plus proche de nous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le nouveau terme qu'on appelle beaucoup mécana. Ça veut dire que c'est le début et que vous allez vous habituer. On doit d'abord commencer par là. On doit sensibiliser par ceux qui sont plus proches du président de la République. Pour leur dire que ce pays appartient aux Congolais. Et nous devons tout faire pour que la richesse de ce pays puisse être redistribué au peuple congolais dans son.
Eric, merci pour votre témoignage. On va rejoindre tout de suite Marie-Paul à Kisangani. Bonjour Marie-Paul.
Oui, bonjour Nathalie. Bonjour à tous les auditeurs de la radio France Internationale.
Alors vous estimez vous aussi, hein, un peu comme Eric, qu'il y a décalage entre la rhétorique et ce qui se fait sur le terrain. Vous n'y croyez pas à ce plan?
Écoutez, madame, il faut d'abord dire qu'il est curieux de constater un véritable amateurie à la tête de la République démocratique du Congo. Et je crois que depuis la période jusqu'à nos jours, le président de la République s'est versé dans un populisme sans précédent, accompagné des excès de promesses. Quand ici. Et si vous vous rappelez, vous faites l'analyse de toutes les promesses que le président est en train de faire à la population. C'est vraiment une véritable démagogie, une véritable démagogie dans le sens que ce qu'on pouvait attendre, la population est dans une situation de misérabilité sans précédent. Tout le monde attendait que, avec l'avènement d'un nouveau président, que la donne soit changée. Mais la donne ne sera pas changée parce que le président est pris dans les carcans des accords. FCC cache. Et le président s'est fait entourer par tous les membres du régime failli parce que le président Kabila a failli. Tout ce que la population pouvait attendre du président Kabila, la population n'a rien vu. Alors la population voulait bien que la chose soit changée et qu'il y ait un certain renouvellement de la classe politique. Maintenant, le président s'est fait entourer par tous ces membres-là, avec ces accords-là, et il continue à promettre. Ce qui fait même qu'il y ait la résilience. La population est fatiguée.
Marie-Paul,
il ne fait que promettre.
Marie-Paul, il y a des exemples quand même, si on regarde un peu ailleurs dans le monde, il y a des exemples de pays où on a réussi à sortir massivement des populations de la pauvreté. Je pense par exemple au Brésil. Brésil, hein, 40 millions de Brésiliens qui ont rejoint la classe moyenne entre 2003 et 2011. Alors c'est vrai qu'il y avait une période de croissance économique, mais il y a eu aussi une politique volontariste d'aide aux plus pauvres. Vous pensez que ça n'est pas possible, ça, en RDC aujourd'hui?
Ce n'est pas possible parce que le président s'est fait entourer des gens qui ont pillé le pays. Le président s'est entouré des gens qui ont appauvri ce pays. La première des choses, parce que lorsqu'il tenait des meetings ici, il disait que s'il prend le pouvoir, la première des choses, c'est d'abord d'incarcéler Kabila, de rendre justice à tout ce que Kabila a fait. Mais une fois au pouvoir, tous les gens, les criminels que nous avons connus dans ce pays, ils sont devenus encore des membres dans son gouvernement. Il n'a pas de moyens de sa politique. C'est difficile parce que quelqu'un qui a failli, il sait qu'il a failli et que vous le mettez à la gestion, il ne va pas vous permettre, vous, d'avancer. Mmh. C'est tout à fait de la démagogie et nous sommes vraiment désespérés et vraiment c'est une remise à question par rapport à tout ce qu'on pouvait attendre à bien des choses que les gens peuvent dire qu'il a la volonté, mais cette volonté ne sera pas manifeste. Alors, d'autant plus qu'il fait partie de l'ensemble des personnes qui ne vont pas lui permettre d'avancer. Et ce qu'il faut, c'est d'abord de rompre ce mariage-là, de rompre avec l'accord FCC et CACH. Et parce que s'il est rompu par cet accord, il aura maintenant des moyens de pouvoir avancer le pays, coller le pays. Parce que tout est au ralais, dont les espoirs sont vraiment désespérés, on ne sait plus rien faire.
Marie-Paul,
la situation est passée de mal en pis.
On a compris évidemment votre propos. Je voudrais qu'on se tourne à présent vers Prince, qui est à Mbujima, et parce qu'on évoquait tout à l'heure la question des inégalités entre territoires. Cette pauvreté, elle est effectivement pas la même selon qu'on se trouve à Kinshasa ou à Mbujima. Félix Tshisekedi, d'ailleurs, a évoqué le Kasaï oriental, deux fois plus pauvre que la capitale. On est là-bas à 78,6% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Bonjour Prince.
Oui, bonjour Nathalie Amar et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Merci d'être avec nous ce matin. Dites-nous concrètement comment ces chiffres un peu abstraits se traduisent pour vous au quotidien à Mbujima.
Ok, merci beaucoup. Pour ce qui concerne les taux de croissance économique ici, je vous assure que Mbujima, c'est la ville la plus médiocre en ce qui concerne les conditions socio-économiques. Je peux vous assurer que au moment où on se parle, les prix d'abord de la mesurette du maïs, de la farine du maïs, qui est l'aliment de base de la population, est estimé à 4,019 dollars, à peu près 7000 francs. Donc, vous allez-y comprendre combien nous y votons ici en Mbujima.
Et alors, vous le dites, pardon, les prix du maïs, du riz, des haricots sont également inabordables. Rien n'est fait pour développer l'agriculture dans cette région de Mbujima.
Oui, oui, jusque-là, bon, il y a des mots d'ordre rhétoriques qui sont donnés de gauche à droite par l'actuel gouverneur des provinces. Mais s'il donne des mots d'ordre faisant de l'agriculture priorité des priorités, il doit d'abord commencer par mettre en place des champs gouvernementaux qui prouvent que, lui, d'abord, il a manifesté la volonté. Bien qu'il essaie de lancer des projets agricoles, mais on ne voit pas les champs que la province a déjà montré à toute la population que moi j'ai mes champs telle part, et suivez mon exemple. Il n'y a pas de politique agricole au niveau de la province. Mmh. Raison pour laquelle nous interpellons d'accord au gouvernement, tant central que provincial, qu'il mette au moins en place des politiques agricoles propres. Parce que la province a longtemps vécu sous le spectre des produits miniers, avec la NIBA qui ne fonctionne plus actuellement, qui est presque en déphasage économique actuellement.
Prince, Prince, en un mot, comment est-ce que vous avez perçu le discours de Félix Tshisekedi la semaine dernière? Est-ce que vous lui faites crédit? Est-ce que vous avez confiance en lui?
Bon, par rapport à son discours, on ne peut que lui faire confiance. On ne peut que lui faire confiance d'abord par le fait que lui, il a au moins la volonté. Il a manifesté la volonté d'abord par rapport à la gratuité de l'enseignement. Nous savons bien que pendant sa campagne électorale, il avait promis de mettre en place une politique de gratuité au niveau de l'enseignement de base. Chose faite. C'est parce qu'il a concrétisé cette volonté. Et actuellement, il a fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Et nous ne pouvons que lui faire confiance et lui interpellons à sa conscience de mettre en place une politique claire pour éradiquer cette pauvreté qui gangrène la République démocratique du Congo en général et la province du Kasaï oriental en particulier.
Merci, Prince Isaac. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Isaac.
Bonjour, Nathalie.
On vient d'entendre le témoignage de Prince. Est-ce que la priorité, ce n'est pas justement de mettre le paquet, si je peux dire, sur le développement de l'agriculture en République démocratique du Congo pour sortir de cette pauvreté et pour assurer une subsistance à chacun?
Exactement, Nathalie. Il a tout à fait raison. On doit mettre le paquet pour développer l'agriculture. Vous savez, la région dans laquelle je me trouve, pour le moment, nous sommes juste à la frontière avec la Zambie. Et je vous assure que tout ce que nous consommons ici, localement, vient de la Zambie. Chose qui n'est pas normale. Quand vous allez à la frontière entre les deux pays, c'est tout qui vient de la Zambie, les papiers hygiéniques, la poudre, et donc tous les produits consommés localement viennent de la Zambie. Donc vous voyez déjà que la région où nous sommes est une région minière où on produit le cuivre et le cobalt et tout l'argent est déversé à la Zambie puisque nous nous approvisionnons à partir de là.
Donc produire localement et récupérer, si on peut dire, le bénéfice de l'exploitation des mines.
Exactement. Quand nous produisons, nous ne devons pas éjecter notre monnaie en Zambie. Nous devons la garder localement en produisant localement. Vu que la population ne sait pas manger le cuivre, le cobalt, ils ont besoin de toutes ces denrées, alors il faut aller les chercher de l'autre côté de la frontière, chose qui n'est pas normale. Le gouvernement devrait songer dans ce sens, d'essayer de développer l'agriculture et même la nourriture de base ici, telle que la farine de maïs, devrait être produite localement.
Merci Isaac. On va prendre un dernier auditeur, Caleb, qui nous appelle de Kananga. Bonjour Caleb. Ah, Caleb n'est pas en ligne. Bon, alors on est en ligne à présent avec Olivier de Kinshasa. Alors vous dites, on a tellement souffert finalement qu'on ne peut que faire confiance à Félix Tshisekedi. Vous avez envie d'y croire à cette promesse, manifestement.
Bonjour Nathalie, évidemment. Vous savez, Félix Tshisekedi n'est pas responsable du chaos qu'il a trouvé au Congo. Ce qui a toujours manqué à l'homme politique congolais, c'est en fait la volonté politique. L'action de Félix Tshisekedi démontre à suffisance qu'il y a au moins la volonté politique. Comme l'a dit l'un de mes prédécesseurs, la gratuité de l'enseignement en est une preuve patente. Mais il y a aussi tout cet exercice que le président de la République fait pour renouer avec les institutions de Bretton Woods, pour essayer de renflouer les caisses de l'État, d'aider le gouvernement à mener à bon port les moyens de sa politique.
Et de solliciter donc des financements internationaux, puisqu'à l'évidence, il y en aura besoin.
Absolument. Vous savez que nous vivons aujourd'hui la conséquence de 18 années de mégestion, de mauvaise gouvernance que nous a légué le régime Kabila. Et le président Tshisekedi a trouvé cette situation et il se bat pour relever la barre.
Merci.
Nous ne pouvons que lui accorder la confiance.
Merci Olivier, on va refermer ici ce débat, mais vous savez que ça continue sur Facebook, sur Twitter. Demain, appel sur l'actualité sera au Niger. D'ailleurs, si vous nous écoutez à Niamey, Juan Gomez vous attend cet après-midi au Centre culturel Oumaruganda pour un débat sur la prochaine élection présidentielle. Pour la première fois depuis l'indépendance, le Niger va connaître une alternance pacifique. Un président sortant va passer le flambeau à un successeur élu. Alors, les conditions sont-elles réunies pour un scrutin incontestable? Vous pourrez en débattre à partir de 15h au Centre culturel Oumaruganda. Appel sur l'actualité, merci à toute l'équipe.
Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous a proposé appel sur l'actualité.
Et dans 10 minutes après le journal, priorité.